Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kautar Archi.
C'est parti!
Bienvenue dans l'ère de la matridominance, ce monde béni où les femmes sont au pouvoir et ont acquis tous les droits. Alors, est-ce une utopie? Il s'agit plutôt du nouvel ouvrage de l'anthropologue et polémiste Emmanuel Todd, Où sont-elles? Une esquisse de l'histoire des femmes aux éditions Seuil. Que dit exactement cet ouvrage et que peut-on lui répondre? On va en parler cette semaine, mais d'abord des news du féminisme.
Bonjour à tous et toutes, effectivement des news du féminisme. Alors, entre autres, les nominations aux Oscars sont tombées, avec dans le lot notamment Kristen Stewart. Mais malheureusement, rien pour Lady Gaga. Surtout, on peut noter 12 nominations pour The Power of Dog, qui est disponible sur Netflix. La néo-zélandaise Jane Campion entre pour sa part dans l'histoire en tant que première femme à décrocher 2 nominations pour les Oscars du meilleur réalisateur 28 ans après la leçon de piano, et la cérémonie se tiendra le 27 mars.
Oui, on la regardera en pleine nuit.
C'est ça.
Et alors, il y a également Gérald Darmanin, donc notre ministre de l'Intérieur, visé par une plainte pour viol, qui s'est encore une fois illustré pour son sexisme. Cette fois-ci, c'était lors d'une interview face à la journaliste de BFM TV, Apolline de Malherbe, à laquelle il a répondu de manière très condescendante « Ça va bien se passer, madame ». Et c'est une rhétorique qui nous vient des milieux masculinistes. Voilà, on n'est pas surprise.
J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère, les hausse de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence.
J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM.
Mais je vois pas le rapport.
Vous ne dites pas non plus, et
mais
ça c'est terrible.
Rapport.
Mais parce que vous ne dites pas
mais
non plus.
Mais je vois pas le rapport.
La
je
baisse,
vous parle en l'occurrence.
Est-ce que vous me laissez parler, madame?
Je parle en l'occurrence des atteintes aux personnes.
Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste.
Bon,
et c'est la difficulté.
Allez-y, essayez de démontrer
l'inverse.
Non,
mais vous ne pas, calmez-vous.
Ce sont vos chiffres.
Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer.
Non, mais
il y a 30% de baisse.
Oh, je vous demande pardon. Comment
ça va bien se passer, madame? Vous allez voir.
Alors le thème de la semaine, on a beaucoup glosé sur ce livre d'Emmanuel Todd, Où sont-elles ? Son auteur a d'ailleurs été invité un peu partout dans les médias à s'exprimer et à donner son avis sur le sujet de ce livre, qui est donc la révolution anthropologique que représenterait le féminisme, et surtout sur le déni du patriarcat que formule son auteur à de nombreuses reprises. Alors qui a réellement lu ce livre ? On peut se demander, puisqu'il s'agit quand même d'un pavé assez indigeste et assez complexe. Kautar, est-ce que tu peux nous dire d'abord qui est Emmanuel Todd ?
Alors Emmanuel Todd est un anthropologue de la famille. Il est aussi connu pour ses travaux en démographie. Il est notamment l'auteur d'un livre paru en 1976 qui s'intitulait La chute finale, où il prédisait notamment la fin de l'URSS. Puis il a poursuivi ses travaux. Il a notamment travaillé avec Hervé Lebras et dernièrement, on peut lui reconnaître un ouvrage qui portait sur le phénomène Charlie. Il s'intitulait Qui est Charlie ? Et dans cet ouvrage-là, Emmanuel Todd, plutôt du côté de la polémique, expliquait que le mouvement Je suis Charlie, venu de la France périphérique, concernait des personnes affilié à des courants antidémocratiques. Et à l'époque, cet ouvrage avait beaucoup fait parler. Il est aussi bien évidemment universitaire, mais ses travaux cherchent à chaque fois à toucher le grand public. Est-ce que tu peux nous dire, Clémentine, de quoi parle ce livre alors ?
Alors déjà, en préambule, il faut reconnaître que l'auteur a l'honnêteté d'avouer que cette question, donc la question du féminisme et des femmes, ne l'a jamais réellement intéressée. Est-ce que cette publication est du pur opportunisme ? On peut se demander. Il reconnaît également qu'il est lui-même soumis à des biais. Et il rend, ce faisant, hommage, ou plutôt fémage, à quelques femmes anthropologues, tout en oubliant un certain nombre, notamment Françoise Héritier, mais pas qu'elle. Et lui-même semble tout de même héritier de l'androcentrisme de l'anthropologie occidentale comme discipline. Il cite également deux théoriciennes féministes contemporaines, à savoir Mona Chollet et Judith Butler, mais sans réelle analyse approfondie de leur travail.
En effet, ce qui est assez frappant quand on porte attention à la manière dont Emmanuel Todd justifie ou appelle sa venue à cet objet qu'est le féminisme, c'est avec une certaine forme de dédain et de surplomb intellectuel, comme si finalement il avait bien voulu concéder à ce sujet bas, à ce sujet impropre, son énergie. Et quelle énergie ? L'énergie d'un esprit supérieur, puisque tout l'ouvrage est traversé par une espèce de sentiment à la fois d'intérêt et en même temps de désintérêt.
Oui, alors ça se traduit d'abord par quelques points sémantiques qu'on peut mentionner ici, puisque la terminologie qui est utilisée dans l'ouvrage pose question, y compris dans un cadre universitaire. Il utilise notamment les termes phénomène transgenre et complexe LGBT qui me paraissent assez problématiques.
Ça questionne quiconque est familier de ces lectures, le simple fait de ne pas prendre en charge avec respect, avec empathie et avec une certaine éthique de la recherche, les vécus et les subjectivités des individus dont on prétend vouloir expliquer des comportements et des croyances témoignent de ce qu'on pourrait appeler ici une sorte de chauvinisme absolu, le chauvinisme masculin par excellence, de vouloir tout savoir, de dire que l'on sait tout et en vérité, on ne sait rien. C'est un travail en ce sens qui, pour ma part, part de l'ignorance, une ignorance d'autant plus grave qu'elle est revendiquée et qui aboutit dans une forme de boucle finale complaisante à une ignorance supplémentaire et apparemment sans fin.
Oui, et malheureusement, ce n'est pas de la sociologie de l'ignorance, parce que ça, ce serait un peu plus intéressant. Mmh. Et alors, dans les termes qui sont utilisés, l'auteur entretient également une confusion entre le sexe et le genre, puisque selon lui, le terme genre nierait la dimension biologique. En réalité, je crois que pas grand monde nie cette dimension. Simplement, ce n'est pas le seul outil interprétatif à notre disposition pour parler de ces questions-là. Et il critique, ce faisant, le caractère, dit-il, émotionnel et militant de ce concept, donc on comprend bien qu'il s'agit là des femmes, qui auraient été inventées selon lui par puritanisme, et pire, on s'en servirait pour masquer la domination féminine.
Cette forme de retour critique et assez régulier sur l'usage du terme genre est une forme, on pourrait dire, de marronnier de la perspective anti-féminisme. Le terme genre nierait a priori les caractères biologiques différenciés de la constitution humaine. Et dire cela, revendiquer une chose pareille, c'est au fond exprimer le souhait de revenir au corps, de revenir à la nature, autrement dit de revenir à ce qui permet de hiérarchiser les hommes et les femmes. On peut dire aussi que par rapport à cet élément-là, par rapport à cette critique du genre émise par Emmanuel Todd, on retrouve aussi une sorte de biais disciplinaire qu'il n'a pas su travailler, puisqu'effectivement, en tant que démographe, il est souvent amené, comme souvent cela a été fait en démographie, à demander aux individus de se positionner notamment selon une case femme ou selon une case homme. Or, bien évidemment, ce type de biais d'approche sont problématiques dès lors que des individus précisent, préconise, affirme ne pas se reconnaître dans cette forme, entre guillemets, de binarité sexuelle. Et de très nombreux travaux existent qui posent cette question à partir des travaux de la démographie. On pense notamment aux travaux de Mathieu Trachman. Et encore une fois, on peut ici regretter qu'Emmanuel Todd, même s'il ne s'intéresse pas à ses collègues chercheurs féminines, ne prenne pas non plus spécialement en compte les travaux de ses collègues chercheurs masculins.
Oui, et enfin, il y a un autre terme qui est malmené dans cet ouvrage, c'est l'intersectionnalité. Un outil qu'il reconnaît utile, mais qui, selon lui, ne s'appliquerait pas à la France. Et là, il explique que la notion de race donc, se révèle peu utile pour la France, car il y a en France des mariages mixtes et que l'on ne peut pas superposer les discriminations pour les femmes d'origine nord-africaine. Donc, je ne sais pas si cette explication est très satisfaisante. Je te laisserai la commenter. Mais en tout cas, il dit qu'il préfère parler de domination que de discrimination. Simplement, ce qu'on peut préciser, c'est que l'intersectionnalité a été conceptualisée par une juriste états-unienne, c'est Kimberly Crenshaw, et que la notion de discrimination est tout de même une notion juridique. Voilà, donc il faut y penser quand on l'emploie ou quand on choisit de ne pas l'employer.
Oui, les passages où cette question est évoquée sont assez étonnants au sens dépréciatif du terme. Nous sommes partagés d'une part entre le regret que le chercheur ne connaisse rien à l'état des connaissances relatives à la perspective intersectionnelle et aux multiples débats auxquels elle donne naissance. Et d'autre part, on est partagé aussi entre une forme de gêne intellectuelle quant aux arguments déployés qui cherchent ici à réduire le racisme, c'est-à-dire des phénomènes de constitution coloniale et esclavagiste de l'Ouest, à une question de mariage qu'il qualifie d'ailleurs de mariage mixte, et cela sans se rendre compte que l'expression même de mixité maritale ou conjugale est en elle-même déjà porteuse d'une vision racialisante. En effet, on supposerait qu'il y a quelque chose qui se mélange, quelque chose qui créerait une mixité. On peut par exemple se demander pourquoi on parle de couples binationaux lorsqu'une personne de nationalité finlandaise épouse une personne de nationalité allemande, et pourquoi tout d'un coup on se prend à parler de couple mixte quand une personne de nationalité française blanche épouse une personne de nationalité congolaise, noire ou vietnamienne, asiatique. Je m'éloigne ici quelque peu de la question centrale, mais cela atteste, il me semble, assez fortement du caractère pauvre d'une réflexion masculine, d'une réflexion traversée par des biais genrés, pour le coup, et qui sont d'autant plus problématiques qu'ils se prétendent subversifs et révolutionnaires. Donc les termes mêmes qu'Emmanuel Todd emploie pour qualifier son objet de recherche sont déjà porteurs d'éléments qui sont récusables.
Oui, et tu parles justement d'une réflexion qui se veut subversive. Et en effet, les arguments qui vont être déployés au cours de ce livre sont déjà bien connus et bien connus, notamment des milieux masculinistes. Et pour lui répondre, on peut se référer aux travaux très fournis sur la question de l'antiféminisme et du discours antiféministe, notamment au Québec chez Francis Dupuy-Déry et Mélissa Blay, et en France chez Christine Barr.
Pour moi, le noyau dur idéologique de l'antiféminisme, on le trouve vraiment dans les courants contre-révolutionnaires. Donc, il faut remonter à la contre-révolution de 1789 et à des évolutions. L'histoire des droites, parmi cette histoire des droites qui avait été écrite par René Raymond, il y a ce courant contre-révolutionnaire dans lequel qui va donner l'extrême droite nationaliste à partir de la fin du 19e siècle. Et c'est là qu'on va trouver les discours les plus antiféministes.
Alors, on va passer un petit peu en revue tous ces arguments qui sont déployés dans cet ouvrage pour voir aussi comment les déconstruire et comment mieux y répondre. D'abord, il y a l'éternelle question de l'origine de l'inégalité. Et là, Emmanuel Todd mobilise une figure que l'on connaît bien et qui est très souvent brandie, c'est donc les chasseurs-cueilleurs. Donc, il dit tout d'abord que le patriarcat n'existe pas, ou qu'en tout cas, il n'existe pas pour sa discipline, qui est l'anthropologie. Et donc, il interroge, dans la première partie du livre, la pertinence de cette notion selon laquelle les hommes sont à la fois chefs politiques et chefs de famille, qui est une notion assez centrale pour toute une partie de l'histoire de la sociologie et qui nous vient des études féminines, des women studies et des études de genre. Il concède qu'un patriarcat peut avoir existé dans d'autres sociétés, les pays arabes ou la Russie par exemple, mais jamais chez nous en Occident, où l'on serait resté proche du système des fameux chasseurs-cueilleurs, on y vient, qu'il définit comme étant une société individualiste où le statut de la femme serait assez élevé, mais avec une division sexuelle du travail entre hommes et femmes. Il parle également d'un monopole masculin universel et naturel de la chasse, donc là on se réfère à des temps antédiluviens, et que donc en conséquence les femmes seraient plus altruistes et plus individualistes dans ce contexte ancestral. Et surtout il soutient qu'il ne s'agit pas là au grand jamais d'une construction sociale et qu'il y aurait aujourd'hui une forme de révolte idéologique contre cette idée. Alors évidemment cette fameuse question très épineuse des chasseurs-cueilleurs continue aujourd'hui à alimenter des débats dans les champs notamment de l'histoire. On peut citer des ouvrages qui font référence, par exemple « L'homme préhistorique est aussi une femme » de la préhistorienne française Marilène Patou-Matisse. Ce sont aussi des controverses que l'on retrouve dans l'ouvrage récent de Titiou Lecoq. Et en vérité, peut-être qu'on manque d'informations pour trancher sur cette question. Néanmoins, la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Maillefer, lui a répondu sur ce point sur France Inter. On l'écoute.
Cher Emmanuel Todd, des radios à la télé ou aux hebdos, la même grande nouvelle a commenté, un homme, vous, a démontré que sur le sujet du patriarcat, on avait tout faux. Si quelqu'un prétendait détenir la preuve que la Terre était plate, lui aurait-on donné pareil écho? La place donnée à votre ouvrage déboulonne à lui seul votre propos. Vous commencez votre livre par des affirmations péremptoires sur la division sexuée du travail dans la préhistoire. Vous balayez la découverte par Randall Haas au Pérou, il y a 9000 ans, de femmes qui chassent, comme celle de femmes vikings qui guerroyaient, car ça dérange votre idée stéréotypée d'hommes qui chassaient pendant que les femmes cueillaient. Si ça vous contredit, c'est que ce sont des bizarreries. Vous n'avez pas lu « L'homme préhistorique est aussi une femme » de la préhistorienne Marilène Patou-Matisse et vous vous en fichez. Comme Françoise Héritier, que vous jugez « pas importante » à la télé. Vous n'avez pas de gêne à écrire une histoire des femmes sans vous référer une seule fois aux travaux de Michel Perrault. Alors que vous vous prétendez savant, ce manque de rigueur est franchement décevant.
Et c'est effectivement dans cet ouvrage d'Emmanuel Todd une chose et son contraire, puisque le démographe et anthropologue prétend aussi qu'il y a eu autant de sociétés patrilinéaires que de sociétés matrilinéaires dans l'humanité et que finalement tout ça est assez équilibré. On se souvient pourtant que l'anthropologue Françoise Héritier, dans l'ouvrage Masculin-Féminin, avait échafaudé ce qu'elle avait appelé une pensée de la différence qui faisait du patriarcat le socle des sociétés. Le masculin prime toujours. La faute originelle est du côté du féminin et on retrouve notamment cette idée d'une conception par le féminin du masculin.
C'est pas la nature qui dit que les femmes sont inférieures, c'est la culture. Non, non. C'est ce qui s'est ensuivi de ces séries de réflexions et qui ont contraint les femmes en les privant de disposer de leur corps, en les privant de l'accès au savoir et en les privant toujours chez nous de l'accès au pouvoir et en accompagnant tout cela d'une situation qui est celle du mépris, de la condescendance, etc. Eh bien, c'est et que l'on voit à tous les coins de rue. Il suffit d'ouvrir les yeux simplement sur ce qui se passe dans la rue, les affiches et le reste, et les discours qui sont tenus. Eh bien, c'est tout cela à quoi nous sommes confrontés. Et je dis que c'est le problème politique majeur parce que les autres formes de domination, elles ont pris modèle sur celle-là. C'est celle-là la plus ancienne, la primitive, et les autres se sont calquées dedans.
Oui, une autre anthropologue qui parle de ces questions, c'est Nicole Claude Mathieu, qui met aussi en garde contre la confusion très répandue entre la matrilinéarité et le matriarcat. Une autre chercheuse qui s'appelle Huguette Dagnet en parle dans sa recension du livre de Nicole Claude Mathieu, L'anatomie politique, dans lequel elle écrit que Mathieu définit les sociétés matrilinéaires, donc la filiation par les femmes, matrilocale et uxorilocale, donc lorsqu'il y a un déplacement du mari et une résidence du couple au sein du groupe de la mère de l'épouse. Puis elle déconstruit les mythes évolutionnistes d'un matriarcat primitif qui aurait précédé le patriarcat, alors que sur le plan scientifique, rien ne permet de reconstituer à coup sûr les structures sociales de la préhistoire. Elle déboulonne ensuite les mythes modernes d'un matriarcat actuel, construit sur des aspects culturels ou symboliques, sans les relier à des faits matériels aussi importants que la division sexuée du travail. De tels mythes peuvent, dit-elle, entretenir auprès des femmes et des lesbiennes une confusion dangereuse entre réalité et fiction. En effet, même s'il apparaît que c'est dans les sociétés qui sont à la fois matrilinéaires et uxorilocales que les femmes ont le plus d'autonomie et d'autorité dans le groupe domestique, ces femmes ne sont pas pour autant libérées de l'obligation à la maternité et à l'hétérosexualité, car ce sont elles qui ont la responsabilité de la perpétuation des lignages et donc de la société en faisant des enfants et notamment des filles.
Cet argument d'un matriarcat universel, ancien pour ne pas dire éternel, viendrait contredire apparemment l'existence du patriarcat et cela constitue une sorte de classique de la pensée antiféministe, comme le rappelle Francis Dupuis-Déry. Il n'y a jamais eu de matriarcat breton ou québécois, contrairement à ce qu'on peut affirmer. Et ce sont les chercheuses Ida Magli et Ginevra Conti Odorizio qui le disent notamment. Ce sont les prémices fallacieuses et des mythes et des idéologies qui prétendent invalider la norme patriarcale en disant « mais finalement, il y eut bien une époque où les femmes eurent le pouvoir ». Ce qui, par ailleurs, peut être critiqué aussi en réaffirmant simplement qu'en tant que femmes d'aujourd'hui, nous nous occupons des problèmes d'aujourd'hui, quel qu'ait été le passé et les jours d'hier.
Oui, justement, par ce glissement sémantique, on arrive à cette description d'un matriarcat contemporain. Donc ça, c'est une des explications fournies par Emmanuel Todd, puisque selon lui, depuis les années 2000, nous serions dans un état, peut-être sans le savoir, de matridominance idéologique. Selon lui, il y a tout de même des restes de domination masculine, mais elle est vraiment cantonnée aux 4% les plus riches. Selon lui, je le cite, il n'y a pas de domination masculine, juste une ascension des femmes qui étaient déjà bien traitées auparavant et dont l'émancipation a été facile. Toujours selon lui, il n'y aurait eu aucun affrontement sanglant et aucune opposition masculine. Donc là, vraiment, on peut s'insurger et d'abord se référer au concept de backlash qui a été élaboré par la journaliste américaine Suzanne Faludi dans les années 90 et qui montrait très bien dans son propre ouvrage comment chaque avancée des droits des femmes avait été scrupuleusement sanctionnée. On le sait, il y a eu des résistances innombrables à l'émancipation féminine. Un exemple parmi tant d'autres, c'est le code civil napoléonien qui a quand même rendu les femmes mineures pendant 100 ans en ne leur donnant aucun droit. Les femmes ont été pendant longtemps des citoyennes sans citoyenneté, pour reprendre les termes de l'historienne Dominique Godino. Et donc, voilà, les mouvements des droits des femmes ainsi que les vagues successives des féminismes témoignent largement de cette lutte difficile et qui n'est pas encore gagnée pour l'égalité.
À ce propos, disons que la posture analytique entre guillemets adoptée par Emmanuel Todd a pour objet de confirmer son refus et le refus de sa classe masculine, bourgeoise, on pourrait dire blanche aussi, de voir un monde se transformer et changer dans un sens particulier et semble-t-il particulièrement insupportable puisque ce n'est pas le sens de leurs intérêts. D'une certaine manière, je trouve que l'ouvrage de Todd est assez merveilleux pour quiconque chercherait un terrain d'observation des expériences du décentrement de soi et d'une forme aussi, il faut bien le dire, de provincialisation de son rapport au monde. C'est sûrement, pour ma part, la lecture la plus utile que j'ai pu faire de cet ouvrage-là, c'est-à-dire essayer de voir comment la volonté des hommes s'affirme pour qu'ils demeurent dominants et comment elle s'affirme aussi pour que les femmes demeurent dominées.
Oui, alors justement, un argument qui va dans ce sens-là consiste à dire que l'égalité est déjà là. Donc ça, c'est toujours le même discours qu'on entend de la part de certains conservateurs, y compris Alain Finkielkraut, par exemple. C'est une reformulation du classique « Qu'est-ce qu'elles veulent encore ?» qui, depuis fort longtemps, consiste à minimiser les revendications qui seraient toujours moins urgentes, moins importantes ou moins légitimes que, par exemple, l'économie, la guerre, etc. Et donc là encore, c'est une manière de nier toutes les inégalités qui existent encore et qui vont bien au-delà des inégalités salariales. Je le cite. Entre 1950 et 1965, en Occident, il est impossible de parler d'un statut bas de la femme. Alors, pour rappel, le 1er juillet 1965, la loi a autorisé les femmes mariées à disposer de leur argent sans accord de leur mari. Donc, voilà ce qu'on peut en déduire sur cette période. En tout cas, l'auteur compare la situation des femmes en France par rapport à d'autres pays. Simplement, ce qu'on peut lui répondre, c'est que nous, on ne veut pas comparer les femmes entre elles, mais les femmes et les hommes au sein d'un même pays. C'est ça l'indicateur qui permet de mesurer les inégalités. Il précise également, pour parler ici plutôt de classe sociale, que dans le monde ouvrier, le rôle des femmes a été plus important car elles géraient les finances à la maison. Il explique aussi que 75% des séparations sont demandées par des femmes et qu'en 2009, 76% des enfants sont confiés à leur mère après une séparation. Donc tous ces signes qui devraient converger vers cette fameuse matridominance qu'il essaye de faire valoir, mais on peut lui opposer que à l'inverse, personne ne dirait qu'on vit dans un patriarcat et que les hommes ont le pouvoir si ceux-ci géraient simplement la domesticité et les finances de la maison. Donc voilà, on voit très bien que quand on inverse cet argument, il ne tient pas. Une autre perspective qui est avancée ici et que l'on connaît aussi déjà, c'est la vieille ritournelle de la guerre des sexes, c'est-à-dire que par une forme de renversement, il explique qu'il y a effectivement une résistance, une confusion, mais qu'en fait, elle est interne aux femmes. Et donc, il parle à de nombreuses reprises d'un antagonisme, d'un féminisme antagoniste, comme étant en fait une perception féminine, une représentation provoquée par le féminisme, et non pas, comme ce que nous soutenons, une réaction tout à fait légitime du féminisme à la domination masculine. Donc, c'est une manière de nier totalement la violence infligée par le patriarcat qui, à mon sens, est justement cet antagonisme-là. Donc, ça revient à réduire des revendications politiques à des affects, des émois qui sont, encore une fois, toujours renvoyés aux femmes. Vraiment, c'est une analyse totalement à l'envers. Et il ajoute également qu'il y a une tradition patricentriste dans les pays anglo-saxons, alors qu'en France, puisque nous ne sommes pas de culture protestante, nous vivrions dans une tradition d'harmonie cordiale qui aurait été dérangée par l'hostilité du féminisme. Et donc là encore, c'est toujours la même vieille rengaine sur le romantisme et la spécificité française que l'on connaît sur la liberté d'importuner.
Et sur cette fameuse liberté d'importuner qui avait notamment fait l'objet d'une tribune, et on se souvient qu'une personne comme Catherine Deneuve et bien d'autres l'avaient signée, donc elle plaidait, elle revendiquait le droit d'être importunée dans la rue par des hommes, puisqu'elle y voyaient là un signe de leur féminité et un signe de leur séduction auprès de ces mêmes hommes. Et à cette occasion, le journal Libération avait sollicité la militante et féministe et philosophe Joan Scott en lui demandant ce qu'elle pensait de ce texte et plus globalement de ce qu'elle pensait de ce qu'on pourrait appeler cette séduction à la française que mobilise ici Emmanuel Todd dans son ouvrage. Joan Scott disait dans le cadre de cet entretien, ouvrez les guillemets, « Ce texte m'a écœurée, mais il ne m'a pas surprise. C'est la continuation d'une tradition dans laquelle on associe l'identité nationale française et la séduction. Elle précise encore, j'ai écrit un long texte sur le sujet, La séduction, une théorie française, dans lequel j'explique que l'idée de la séduction comme trait d'identité nationale française est un mythe. Elle est en fait une idéologie conservatrice qui est antidémocrate et patriarcale. Elle ajoute, cette vision conservatrice de l'identité nationale française, certains y adhèrent, mais elle est aussi vivement critiquée par de nombreuses féministes françaises qui la considèrent comme erronée. Ces dernières n'acceptent pas l'idée de complémentarité asymétrique, ni l'idée de consentement amoureux, ni l'idée de galanterie comme code de comportement masculin. Toutes ces idées sont, selon elles, misogynes. Leur féminisme est un féminisme d'égalité. Et enfin, elle précise, pour conclure, elles ont fait part de leur opinion dans une tribune publiée par Mediapart, traduite dans nombreuses langues et qui circule en ligne. Et je pense que cette tribune est bien plus représentative du féminisme français que la lettre insultante et conservatrice signée par Catherine Deneuve. Merci Joanne Cotte pour cette précision et cette affirmation claire et nette.
Très belle intervention. On se plaît à rêver à un débat entre Joanne Scott et Emmanuel Todd. Une autre stratégie discursive qui est mise en place dans ces textes, c'est ce qu'on appelle la rhétorique de l'effet pervers. Et là encore, je vous renvoie aux travaux de l'historienne Christine Barr. Donc pour Emmanuel Todd, l'égalité des femmes n'a pas eu que des effets positifs et même il a eu des effets négatifs. Je le cite encore, l'ère des femmes est celle d'une chute du dynamisme économique et du niveau de vie, d'un pourrissement de la liberté d'expression, d'un affaissement du sens du collectif. Il ajoute qu'il y a également davantage d'inégalités, de complotisme, d'élitisme et de populisme, sans parvenir vraiment à établir de lien de cause à effet entre le féminisme et tous les phénomènes qui sont décrits ici. On peut aussi peut-être lui répondre que les régimes populistes au pouvoir actuellement sont quand même plutôt gouvernés par des hommes. On peut se référer à l'Autriche, à la Russie ou encore à la Chine. Et il parle également du phénomène qu'on appelle l'anomie, qui a été décrite par Durkheim dans Le Suicide, et qui explique qu'aujourd'hui, en tout cas dans la période contemporaine, les individus ont du mal à trouver un sens à leur vie à cause de la montée de l'individualisme, mais simplement, là aussi, on ne comprend pas quel est le rapport avec le féminisme. Voilà, mais en tout cas, on peut bien identifier ici toujours le principe du backlash qui consiste à reprocher aux femmes les effets de l'émancipation, c'est-à-dire vous êtes célibataire, donc vous allez mourir d'une grave maladie, la société va s'effondrer, tout est votre faute, etc.
Effectivement, et on voit bien ici la mécanique qui est mise en place. Les femmes se plaignent de situations qui seraient le fait de leur propre désir d'émancipation, ce qui revient à poser l'émancipation féminine comme source de problème et a priori l'assujettissement de ces mêmes femmes comme potentielle solution.
Et oui, et donc il développe deux arguments pour démontrer l'existence d'une suprématie féminine, en tout cas en France aujourd'hui, et pour montrer de quelle manière les hommes seraient dominés socialement. Et là encore, ce sont deux points que l'on retrouve assez fréquemment dans la bouche des masculinistes. Il y a d'abord le taux de suicide des hommes, puisqu'il est vrai que les hommes se suicident davantage que les femmes, mais ce qui compte, c'est l'interprétation que l'on fait de ces chiffres, puisque les masculinistes analysent ces suicides comme étant bien souvent le fait de mères castratrices, de femmes émancipées, voire même de féministes. D'ailleurs, en France, Michel Tison, qui est le fondateur de l'association SOS Papa, a même laissé entendre que les femmes qui divorcent pousseraient les hommes au suicide. Tout cela ne nous empêche pas de rappeler, bien évidemment, que la majorité des ménages monoparentaux sont des femmes célibataires avec enfants et précaires. Voilà.
Le sociologue Francis Dupidéry explique aussi qu'au Québec, le thème du suicide occupe une place centrale dans le discours de la crise de la masculinité, et cela à tel point qu'il permettrait d'envisager une symétrie de la violence conjugale, qui bien sûr est fausse, mais qui sous-entendrait que finalement, si les hommes frappent les femmes, après tout, les femmes poussent aussi les hommes à se tuer.
Quand on regarde, les taux de suicide, au Québec, ça a été un argument longtemps utilisé pour prétendre qu'il y a une crise de la masculinité, c'était le taux de suicide masculin était de 3-4 fois plus élevé que le taux de suicide féminin. Et donc, on se dit, là, il y a quand même quelque chose de révélateur. Ça n'a pas l'air facile d'être un homme. La preuve, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Donc, c'est la preuve que c'est difficile d'être un homme. Et puis, en plus, il y avait même des groupes de pères séparés ou divorcés ou des personnalités masculinistes qui disaient, en plus, c'est les femmes qui poussent les hommes à se suicider dans des situations de divorce, par exemple. Et donc, non seulement les hommes se suicideraient plus que les femmes, mais en plus, ce serait de la faute des femmes s'ils se suicident. Donc, un double discours de victimisation des hommes face aux femmes. Le problème avec ce discours, et c'est un problème sérieux, là, je minimise pas du tout le problème du suicide, c'est très, très douloureux. Et donc, cette idée du suicide qui serait le résultat d'une crise de la masculinité, et donc ça serait la preuve qu'il y a une crise de la masculinité, en fait, c'est peut-être l'inverse. C'est, en fait, s'il y a un taux de suicide si important du côté des hommes, si on compare aux femmes, c'est peut-être, en fait, à l'inverse, que la masculinité viriliste, stéréotypée, clichée, dominatrice, forte, etc., elle est encore très présente, très forte, très prégnante, et c'est un facteur de risque. Mais sur le suicide, je veux compléter en disant deux, trois autres choses importantes. C'est qu'en fait, de prétendre que le suicide est le résultat, par exemple, d'une féminisation de la société ou de l'influence des féministes ou du déclassement des hommes face aux femmes, est un discours fallacieux parce qu'en fait, si on revient à la fin du 19e siècle, on ne va pas me dire qu'à la fin du 19e siècle, les femmes et les féministes contrôlaient la France, par exemple, on a déjà des taux de suicide équivalents. Et dans des pays où, à ma connaissance, les féministes n'ont pas pris encore le contrôle, je pense à la Russie ou au Mexique, à ma connaissance, en Russie, ce n'est pas les Pussy Riot qui contrôlent le Kremlin, c'est peut-être plutôt Poutine, qui n'a pas l'air d'être en crise de masculinité du tout, d'ailleurs.
Il est vrai, comme le disait Clémentine, que les hommes se suicident davantage que les femmes. Et en Corée du Sud, pays où les femmes se suicident le plus, il y a pourtant aussi des groupes masculinistes qui se plaignent du féminisme. Donc, après tout, pourquoi pas? Surtout, il n'y a aucune corrélation entre le divorce et le suicide. C'est un point qui n'est justifié ni par la statistique et qui n'est pas corroboré par de quelconque analyse sociologique sincère.
Oui, et on peut également ajouter qu'au Canada, en tout cas entre les années 93 et 2003, 31% des hommes qui ont assassiné leur conjointe se sont aussi suicidés dans la foulée. Donc voilà, il faut aussi examiner le contexte de ces phénomènes dont on parle. Et alors, un deuxième argument qui est développé ici, c'est le thème de l'éducation, puisque selon Emmanuel Todd, la matridominance passe par une domination donc éducative. Il explique que les garçons sont moins bons à l'école, et ça, c'est aussi un phénomène de panique médiatique qui vient des États-Unis, comme le rappelle Francis Dupuy-Déry. Dans les années 90, on s'était beaucoup inquiété des mauvais résultats scolaires des garçons, avec cette idée selon laquelle l'école peut-être ne serait pas adaptée aux garçons et qu'elle favoriserait des modes d'apprentissage féminins. N'oublions pas non plus que l'accès à l'école a été quand même très restreint aux femmes pendant de nombreux siècles, mais passons. Et donc, Francis Dupuy-Déry rappelle très bien que ça fait déjà des décennies, voire des siècles, que l'on se plaint que les garçons apprennent mal et que les résultats scolaires des filles sont tout de même très stables depuis le début du XXe siècle, et ce n'est donc pas la faute du féminisme. D'ailleurs, pour prendre un exemple, c'est aussi le cas dans le monde, y compris aux Émirats arabes ou au Qatar, qui sont des pays où le féminisme a une moindre influence. En réalité, selon lui, il s'agit plutôt d'une question de classe sociale que de genre. Il explique que le discours sur les difficultés des garçons précise rarement de quelle catégorie de garçons il s'agit. Aux États-Unis, la National Education Association a d'ailleurs noté qu'il n'y avait quasiment pas de différence de résultats dans des classes très homogènes où les élèves sont blancs et de classe moyenne ou aisée. Et par ailleurs, le racisme systémique a quant à lui un effet persistant sur la persévérance scolaire. On peut aussi ajouter que cette domination féminine ne se traduit pas du tout ensuite dans le monde du travail où les femmes continuent de gagner moins à diplôme et poste égal. Voilà, donc on se demande un peu où est cette matridominance.
Et on aurait envie aussi de conseiller à Emmanuel Todd de s'enquérir effectivement des travaux intersectionnels, mais comme nous avons affaire à un militant antiféministe plutôt qu'à un chercheur soucieux véritablement de son objet de recherche, n'ayons pas beaucoup d'espoir en ce que la science ici peut nous apporter. On voit bien, en tout cas on essaye de le montrer depuis le début de cet épisode, qu'on se situe davantage sur le terrain du rapport de force politique que sur celui de la production de connaissances.
Oui, et je me permets de vous renvoyer à un épisode précédent qu'on avait réalisé sur la question justement du backlash. Voilà. On écoute l'analyse de l'historienne Christine Barr, qui a notamment écrit et dirigé ou co-dirigé les ouvrages suivants « Un siècle d'antiféminisme », mais aussi « Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui ». Et elle parle de ses discours antiféministes, mais aussi d'un autre exemple, en plus de celui d'Emmanuel Todd, qui est celui d'Éric Zemmour.
Au début du XXe siècle, Jean Finot, qui est un auteur oublié aujourd'hui, a écrit un livre particulièrement intéressant qui s'appelle « Préjugés et problèmes des sexes », dans lequel il expliquait que le féminisme, pour lui, se situait dans un cadre de pensée optimiste, avec l'espoir de changer le monde. Et il opposait au féminisme l'antiféminisme qui relève, pour lui, d'une pensée décliniste. Ça m'a semblé vraiment pertinent pour comprendre le discours d'Éric Zemmour aujourd'hui. L'antiféminisme de Zemmour s'appuie en effet sur une vision de l'histoire outrancièrement décliniste qu'il a déjà déployée dans Mélancolie française en 2010, où il comparait les vagues migratoires actuelles à celles des barbares responsables de la chute de Rome. Dans Le suicide français, le champ chronologique se réduit aux 40 années qui ont « défait la France », entre guillemets, avec comme point d'origine mai 68 et la fin du gaullisme, et comme résultat le triomphe du matriarcat, de la halalisation et du pouvoir gay. C'est avec la pensée 68, entre guillemets, qu'il faut rompre. Et donc, avec les mouvements de libération qui en sont une dimension, le MLF et les mouvements homosexuels. L'antiféminisme obsessionnel de Zemmour n'est pas une nouveauté du suicide français. On le trouve au cœur de l'essai de 2006 « Le premier sexe » qui avait été considéré comme un plagiat de l'essai d'Alain Soral vers la féminisation, démontage d'un complot antidémocratique, 1999. Dans le suicide français, Zemmour trouve une forme plus adaptée au grand public. Alors, l'argument qui me frappe le plus, hein, il reprend le motif le plus classique de l'antiféminisme, l'inversion. Zemmour veut remettre de la différence des sexes dans toutes les activités humaines. Contre le venin de l'égalitarisme, il s'oppose par exemple au partage des tâches au foyer. À propos des années 80, 1980, il écrit « Les travailleurs étaient sommés de devenir des ménagères, les pères étaient sommés de devenir des mères, les hommes étaient sommés d'aimer comme des femmes. Aux hommes, la force, aux femmes, le sentiment. Il s'agit de lutter contre, entre guillemets, la sentimentalisation du monde qui est un des effets de ce qu'il voit comme une féminisation générale. Ce différentialisme outrancier va de pair avec une défense de l'hétérosexualité comme norme et des propos systématiquement hostiles au mouvement gay qui offre, selon lui, pour un monde où l'hétérosexualité deviendrait anormale et où l'homosexualité deviendrait la norme. Alors, quelques mots sur l'imaginaire sexuel de Zemmour. Sa conviction la plus profonde est qu'il faut respecter la nature, associée à ses représentations de l'homme et de la femme préhistoriques, débordant de vitalité sexuelle. En bon décliniste, Zemmour déplore l'évolution des sensibilités à l'égard de la prostitution et signe le manifeste « Touche pas à ma pute » en 2013. Inanité du féminisme, pour lui, un homme sera toujours un homme. Il est vain et même nocif de criminaliser, c'est son mot, la libido masculine qui repose, je cite, « sur la brutale pulsion et la mise à distance ». Les femmes en sont aussi victimes, car il est dans leur nature d'aimer d'être dominées. La thématique de la dévirilisation des Blancs est omniprésente dans son livre. Alors, on peut se demander ce qui est nouveau, finalement, dans cet antiféminisme de Zemmour. Alors, je dirais d'abord les attaques LGBT-phobes, qui ont une longue histoire, mais qui étaient quand même moins présentes, évidemment, au début du XXe siècle que de nos jours. Et puis, l'islamophobie, qui prend la place centrale qu'avait auparavant l'antisémitisme dans l'antiféminisme réactionnaire. Même si, eh bien, on le sait, Zemmour révise l'histoire, révise le rôle de Vichy dans le génocide des Juifs, et c'est une des parties controversées du livre sur lequel j'ai appuyé ma lecture de Zemmour.
Alors toi, Kaoutar, quelle est ton expérience avec ce genre de discours? Comment y répondre?
Je crois que ce sont des discours effectivement qui sont assez répandus et qui peuvent très vite surgir au détour d'une conversation informelle entre amis, mais qui occupent aussi, il faut le dire, une place assez importante dans les médias, et cela circule finalement comme une sorte de sens commun, à savoir qu'après tout, ça ne va pas si mal que ça pour les femmes. Il y a des situations beaucoup plus violentes et beaucoup plus dangereuses vécues par des femmes ailleurs dans le monde, ce qui est une manière finalement de tirer tout le monde vers le bas plutôt que d'essayer de tirer les femmes vers le haut. Et puis, par ailleurs, par rapport notamment à cet ouvrage de Todd. Je sais que certaines se sont désolées de cet ouvrage, mais en même temps, pour moi, il continue aussi à participer d'une certaine forme de clarification des rapports de force, puisqu'on voit bien que plus les revendications en matière d'égalité, de justice sociale avancent, plus cela fait du bruit, plus il y a des personnes qui écrivent et qui s'expriment à ce sujet, et plus des positions radicales sont tenues aussi par les personnes occupant des positions au sein de l'autre camp. Donc finalement, le fait que Emmanuel Todd dévoile sa perception de ce travail-là nous apprend aussi à savoir que son travail n'est pas si nécessaire que cela aux luttes pour l'émancipation. Et toi, Clémentine, quelle est ton expérience personnelle ou plus générale?
C'est vrai que je suis assez amusée de voir qu'on sort encore des livres qui consistent simplement à reformuler l'opinion dominante, puisque c'est vraiment le cas de ce livre-là. Mais par ailleurs, évidemment, comme toi, j'ai eu beaucoup de débats, surtout avec des hommes et des hommes cis. Évidemment, pas directement avec Emmanuel Todd, même si je le regrette, mais souvent parce qu'ils se sentent personnellement pris à partie quand on parle de patriarcat, de domination masculine, ou bien des hommes en général. Mais aussi, je pense que ces questions, évidemment, elles sont pas évidentes à comprendre quand on s'y intéresse pas, quoi, tout simplement, ou quand on est moins concerné. Et c'est vrai qu'entre l'égalité, le différentialisme, etc., c'est pas toujours évident. Et je pense qu'il faut arriver à penser à la fois les femmes comme des individus égaux et égales, et en même temps comme subissantes subissant des dominations spécifiques. Et donc, je pense que c'est difficile de penser ces deux choses, de les avoir en tout cas à l'esprit conjointement. Et donc, c'est vrai que la question est-ce que vous voulez être traité pareil ou différemment, et parfois, elle est un peu compliquée à expliquer. Voilà. Et après, sur ce vieil argument des chasseurs-cueilleurs, moi, j'ai aussi très souvent entendu cet argument d'autorité de la nature comme étant naturellement bonne, donc, et comme étant une forme de modèle ancestral à reproduire. Pour moi, c'est vraiment un argument qui tient pas du tout la route, parce que dans ce cas-là, on n'a qu'à se taper sur la tête avec un gourdin. Et puis, le cancer aussi, c'est naturel. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est un peu court comme explication. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant qu'Emmanuel Todd prenne à rebours vraiment tous les efforts de la sociologie féministe qui consiste justement à visibiliser les rares moments historiques où les femmes ont été effacées, tout en rappelant le poids de la domination masculine. Et lui retourne tout ça et s'en sert pour dire, bah, vous voyez, il y a des femmes, c'est même les féministes qui le disent, donc tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Et par ailleurs, on n'en a pas parlé avant, mais il y a également des propos sur la contraception, où il dit « la perte de pouvoir masculin est totale, l'homme au sperme dédaigné remplace la fille mère », ce qui est vraiment incroyable quand on sait que la contraception, ça reste un domaine où la charge mentale pour les femmes est toujours énorme.
Et quand on sait la condition sociale, historique des filles mères, c'est...
Oui, en plus
hallucinant.
Il dit aussi que le capitalisme néolibéral s'est développé en même temps que le féminisme, mais sans, encore une fois, établir de corrélation, alors qu'on sait très bien que les prémices, justement, du capitalisme, si on veut revenir peut-être pas aux chasseurs-cueilleurs, mais à un peu après, correspond plutôt au développement du patriarcat. Donc voilà, on peut encore s'étonner. Et enfin, lui-même trouve très bizarre le succès du livre de Mona Chollet, Sorcière. Donc voilà, je pense que sur ce point-là, on ne peut plus rien pour lui.
Le moment pop
culture,
pop culture.
Évidemment, ce sont des idées qu'on retrouve dans la culture, puisqu'il y a une vraie culture du backlash qui peut charrier des Rolands antiféministes, comme des Rolands féministes d'ailleurs. On a déjà parlé ici plusieurs fois du film canonique de la culture du backlash, C'est Liaison fatale d'Adrienne Lynn, qui est un peu le summum du genre, où on nous montre qu'être une femme indépendante équivaut à devenir une maîtresse folle qui veut tuer son amant.
Je te trouve fantastique. Mais je suis marié.
Et donc, il y a tout un tas d'exemples où la culture réagit bien ou mal au changement de la société. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, où le cinéma va refléter l'émancipation féminine qui est plutôt réprouvée par la société, en tout cas à ce moment-là, au travers de films d'horreur gothique qui mettent en scène des femmes ayant peur que leur mari les tue. Donc ça, c'est vraiment le scénario de base de ces féminicides movies. Voilà, c'est plutôt des fictions assez dissuasives. Après, évidemment, il y a des exceptions, des nuances, etc. Mais en tout cas, le cinéma, et d'ailleurs comme les séries ou la littérature, vraiment souvent dépositaire de cette ambivalence. Moi, je pense aussi à l'adaptation d'un roman qui s'appelle Rien n'est beau, qui a été écrit par Rona Jaffe. Donc, il a été adapté au cinéma et ça montre les premières jeunes femmes célibataires dans le New York des années 50. Donc, ce sont des jeunes secrétaires dans des bureaux. Mais le film va très rapidement sanctionner ces trajectoires et notamment par, c'est un spoiler, la mort d'une des héroïnes. Donc, finalement, le message est assez clair, hein. Célibat égale danger. Voilà.
Il y a des films aussi dont la postérité peut faire débat parce qu'ils sont notamment récupérés par des groupes et des rhétoriques antiféministes. On pense notamment au film Fight Club de David Fincher.
Après le Fight Club, on s'est tous mis à voir les choses différemment.
Tu vas devoir me tenir réveillée toute la nuit.
Et elle a tout foutu en l'air.
Tu t'intéresses pas à elle, non ?
Mon Dieu, non, pas du tout.
La télévision nous a appris à nous persuader qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma et des rockstars. Mais c'est faux.
Il avait un plan.
Un film aimé par l'extrême droite, par les incels et par les pick-up artistes qui montre la masculinité toxique et la masculinité fragile. Ou bien est-ce alors peut-être une satire anti-capitaliste ? On peut penser aussi au Joker de Todd Phillips plus récemment qui lui aussi a fait l'objet de sacrées tentatives de récupération anti-féministe.
Je me fais des idées, hein. Où c'est de plus en plus la folie.
Oui, un film très ambigu. Et évidemment, en France, il y a un auteur qui mobilise toutes ces rhétoriques, c'est Michel Houellebecq, qui le fait peut-être de manière un peu plus roublarde, mais dont les textes prennent en tout cas la défense d'une forme de masculinité blessée et en crise. Je vous laisse deviner la faute à qui. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas eu le courage de lire son dernier livre, donc je ne ferai pas de commentaires.
Ce qu'on peut peut-être ajouter aussi par rapport à l'œuvre entre guillemets littéraire de Houellebecq, c'est que Clémentine, à juste titre, parle d'une forme de roublardise. On peut remarquer que souvent aussi, dans ces ouvrages-là, il fait une sorte de distinction entre les femmes du Nord, donc les femmes blanches, et les femmes du Sud, les femmes non blanches, voire les femmes racisées. Et il déporte sur les femmes racisées, sur les femmes du Sud, toutes les formes de féminité que les femmes du Nord, les femmes blanches, auraient abandonnées. Donc on voit ici, encore une fois, comment, à travers cette question littéraire, la masculinité blessée et la masculinité en crise essaie malgré tout de continuer à trouver des bastions féminins qui correspondent à un certain idéal de féminité. Et là, c'est par le prisme de l'exotisme et de la racialisation.
Il y a aussi des formes de résistance qui peuvent venir de la gauche. C'est le cas récemment du côté du philosophe Geoffroy de Laganerie. À partir de son expérience amoureuse avec son conjoint qui est plus âgé, donc c'est Didier Ribon, son ouvrage récent qui s'appelle « Mon corps, ce désir, cette loi » se plaint d'une forme de judiciarisation de la sexualité. Et dans ce livre, il se demande s'il faut voir dans la sexualité, je cite, « une activité à ce point particulier que des remarques ou des gestes déplacés peuvent coûter leur carrière à un éditeur, un homme politique, un cinéaste, un chanteur et faire de lui la cible d'enquêtes journalistiques. Il tente dans ce livre de repenser la lutte contre les violences sexuelles hors de ce qu'il qualifie de logique répressive. Donc peut-être en s'inscrivant ici dans une généalogie qui vient de Michel Foucault, c'est en tout cas un argument assez dévoyé qu'on entend souvent, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme de violence inhérente à la sexualité, pourquoi pas, mais qu'en tout cas, celle-ci devrait rester dans le domaine privé et que l'État et la justice n'auraient pas à intervenir, ce qui signifie qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dénoncer tout le monde et se victimiser. Voilà.
On passe à la rubrique des recommandations culturelles.
Les recommandations culturelles.
De quoi de meuf ?
Pour ma part, je vous invite à vous rendre en librairie et à vous procurer l'ouvrage qui est désormais en vente. Ceux qui ne sont rien, l'ouvrage de Taha Bouafs, le fameux journaliste qui s'est fait connaître notamment pour avoir révélé les images d'un certain Alexandre Benalla en train de frapper de simples manifestants et manifestants. Et dans cet ouvrage, Ceux qui ne sont rien, qui a donc été publié par les éditions de la Découverte, Taha Bouafs revient sur son parcours, revient sur les modalités de sa conscientisation politique et tout cela sur fond de quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour ceux qui s'intéressent au journalisme, à l'engagement, à la critique et à Emmanuel Macron, et potentiellement aux prochaines élections qui nous attendent, je vous conseille ce livre-là.
De mon côté, je recommande un livre qui s'appelle « Choisir d'être mère » de la journaliste Renée Grosard. C'est aux éditions J.C. Lattès. Et dans cet ouvrage, la journaliste pose la question de ce qu'elle appelle le consentement à la maternité, qui est une question effectivement qu'on se pose assez rarement, puisque c'est un domaine où règne une forme de désinformation encore aujourd'hui, qui vient à la fois du monde médical, mais aussi parfois des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on se ment, qu'on ment aux autres, qu'on cache une partie de la vérité, qu'on essaie de garder la face, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons à ça. Mais du coup, comment choisir quand on n'est pas réellement au courant de la réalité ? Et donc, elle parle de tout un tas de phénomènes, comme la nuit de Java. Donc, je vous laisse découvrir ce que c'est dans le livre. Elle parle évidemment de l'allaitement, du congé maternité, du congé paternité, ou du congé pour le deuxième parent. Et elle détricote le mythe du « c'est que du bonheur », n'est-ce pas ? Voilà, c'est une lecture qui est assez salutaire, que l'on ait des enfants ou pas d'ailleurs.
Super.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez lu Emmanuel Todd, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez également retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode et nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de bande dessinée et de travail du sexe. Merci, salut Kaoutar.
À bientôt.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo.
Journaliste chroniqueuse Kaoutar Archi.
Mixage et montage, Laurie Galligani. Prise de son, Thibaut Delage à l'arrière-boutique. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation et coordination, Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin.